RPL
89.2. Nous retrouvons monsieur le maire de Peltre, Walter Kurtzmann, pour un échange en direct autour de l'actualité de la commune, les projets en cours, peut-être les enjeux à venir également. C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour ce mardi et nous sommes en compagnie également de notre ami Jean-Marie. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour aux auditeurs.
Très heureux de vous retrouver sur l'antenne d'RPL Radio, la radio du Pays Lorrain, radio située à Peltre. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Jean-Marie.
Alors, on va faire connaissance déjà avec vous, avec votre commune. On va parler de ce qui a été fait. On va parler de vos projets. On ne va pas parler de vos opposants, parce qu'il n'y en a pas. On redébattra, on reparlera de ça après.
Il n'y en a pas sur le papier.
Il n'y en a pas, oui, bien sûr, je me doute. Walter Kurtzmann, c'est les élections ce dimanche. Je le disais, il n'y a qu'un candidat, pour autant, il faut aller voter quand même. Voilà. Quel est l'argument que vous pouvez développer, vous, pour dire « venez voter »
En fait, les élections, c'est une équipe et un projet. Si l'équipe et le projet sont élus avec vraiment une participation très faible, on peut se poser la question derrière, est-ce que vraiment la population soutient l'équipe et le projet ? Et donc la participation aux élections, même quand il y a une seule équipe, c'est important.
Voilà.
Et puis après, il ne faut pas oublier que auront plutôt tendance à se déplacer ceux qui sont contre que ceux qui sont pour.
Absolument.
Donc ceux qui sont pour, il faut quand même qu'ils fassent l'effort de venir.
Voilà, tout à fait.
Pour assurer... pour assurer leur soutien à l'équipe qui va être en place et au projet que l'équipe porte.
Et puis l'actualité mondiale en ce moment nous prouverait si besoin que le droit de vote est un droit qui a été acquis. Et on voit bien que dans certains pays où les femmes n'ont même pas le droit de chanter dans la rue, elles aimeraient probablement bien voter. Donc allons voter dimanche du côté de Peltre, mais aussi ailleurs,
partout.
Si vous habitez ailleurs, partout. Alors pour faire un petit peu plus ample connaissance avec vous, c'est votre combientième mandat ?
Alors je suis élu depuis 2001. J'ai été élu dans l'équipe de Bernadette Veller en tant que conseiller municipal de 2001 à 2008. Ensuite, de 2008 à 2014, j'ai été le premier adjoint de Bernadette Veller.
Mmh.
Et en 2014... j'ai été élu pour la première fois maire, et donc je suis élu depuis 2014 sans discontinuer en tant que maire de Peltre.
Vous représenter n'a pas été une question, c'était dans la continuité, ou alors à un moment donné, vous vous êtes dit il faudrait peut-être que je prenne un peu de vacances, parce que je crois savoir que vous êtes en retraite. Largement mérité, il paraît. Et on peut se dire aussi, maintenant, je prends un peu de recul, parce que, disons-le, et l'actualité le prouve, il y a de moins en moins de candidats parce que c'est une véritable vocation.
Alors sincèrement et objectivement, ça va peut-être être un scoop pour vos auditeurs, mais j'étais pas parti pour me représenter. En tout cas, j'ai longuement hésité. Pourquoi ? Vous l'avez dit, je suis en retraite depuis le 1er avril 2025 et je me suis dit, il est temps de passer la main. Les indispensables, il y en a plein les cimetières.
Absolument.
Il faut un peu profiter de la vie aussi. J'ai deux petits-enfants dont j'aimerais pouvoir profiter. Et quand on est maire, on a un emploi du temps qui est souvent chargé, comme si on travaillait. J'ai une fille qui n'habite pas en France, qui habite à Montréal depuis 7 ans. Avec mon gendre, ils n'ont pas l'intention de revenir. C'est un pays qui nous plaît bien. Avec ma femme, on est allé plusieurs fois. Et donc, on aimerait leur rendre visite plus souvent.
C'est souvent, oui.
Et puis, je me suis dit, il faut passer la main. Voilà, maintenant, ça fait 25 ans que tu es élu. Ça fera 25 ans en mars que
je suis élu. Un quart de siècle.
Bon, c'est une page quand même.
Bien sûr.
Et donc, je me suis dit, il faut passer la main. Il y a eu un autre facteur aussi. Il y a nombreux collègues avec qui j'ai été élu. Je pense à Dominique Neige, je pense à Jean-Claude Bastien, je pense à Jean-Michel Guernet, qui ont décidé d'arrêter.
Oui.
Et je me suis dit, si eux, ils arrêtent, il faut peut-être aussi que moi, je passe la main. Et il s'est passé quelque chose que j'attendais pas trop. Mes collègues m'ont dit, on n'est pas tout à fait prêt à prendre la suite. Faudrait que tu nous consacres encore un peu de temps pour nous former, pour nous transmettre un peu plus des connaissances, parce que ça devient plus complexe avec la métropole, avec
on en parlera tout à l'heure,
tous les dossiers à gérer. Et puis aussi... Je vous le dis aussi sincèrement, ma femme qui m'a dit écoute, hyperactif comme t'es, je pense que ça va pas le faire. Tu vas pas rester en place.
Tu stoppes ton travail, tu te retrouves en retraite, tu stoppes la mairie. Voilà. Oh, tu vas faire quoi ?
Tu vas déprimer. Représente-toi, fais ce que tu dois faire pour la commune. Lève un peu le pied quand même. Mmh. On est en bonne santé entre 60 et 70 ans. Et donc, lève un peu le pied, qu'on puisse plus souvent partir en week-end, s'occuper de nos petits-enfants, partir au Canada comme tu le souhaites. Ouais. Et donc, fort de tout ça, ben, je me suis dit, bon, allez, j'y vais.
Encore une fois, on y va et voilà. On peut en profiter, je pense que vous serez d'accord, pour saluer les épouses ou les époux, quand c'est la dame qui est aux commandes de la commune. On peut en profiter pour saluer le conjoint, parce que le conjoint, c'est quand même une vie à part. Hein. Donc, saluons-les.
Il faut les saluer à double titre. D'abord, les conjoints et les familles en général, parce que... Quand on est conseiller municipal, c'est quand même une dizaine de soirées par an, à minima, où on n'est pas là.
Par an, par mois ?
Non, par an.
Pardon.
Oui, par an, pour conseil municipal, où on n'est pas là. Et donc, où on laisse son conjoint, sa conjointe avec les enfants. C'est des réunions de commission le soir, peut-être le samedi matin, où on n'est pas là non plus. Et donc, il en faut bien un qui s'occupe des gamins, il en faut bien un qui fasse tourner la boutique. Et donc, oui, il faut les
saluer. L'assentiment du conjoint.
Et la deuxième raison pour laquelle il faut les saluer, c'est qu'en plus de notre engagement, souvent on les embarque avec. C'est-à-dire que, tiens, là, il faudrait donner un coup de main pour ci, pour ça.
Tu serais dispo samedi matin, on a besoin de gens pour mettre les tables.
On a besoin de gens pour mettre les tables. C'est le repas des seniors. Tu sais, on a prévu que les femmes ou les hommes, ils viennent avec. Et les femmes, elles font le service. Les hommes, ils font le service, mais du vin. Voilà. Et donc, on les embarque avec nous, sans toujours leur laisser le choix. Alors, ils le font... toujours avec bienveillance et avec le sourire, mais voilà, on les embarque dans l'aventure que nous, on a choisie.
Elles sont ici saluées à la hauteur de ce qu'il fallait. Alors, on va présenter un petit peu votre commune de Peltre, le nombre d'habitants.
Alors, au dernier recensement, 1924 habitants. 1924, ça représente l'ensemble de la population, c'est-à-dire les résidents permanents et ce qu'on appelle les comtés à part. Alors, pour faire simple, les comtés à part, ça va être par exemple les compagnons d'Emmaüs qui vont viennent.
On en parlera.
Ça va être les internes du lycée-collège de l'IFSI.
Ah oui, d'accord.
Et ça va être les sœurs aussi. Mmh. Parce que les congrégations, les sœurs, elles peuvent être là pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire plus, 30 ans, sans bouger de peltre. Puis d'un seul coup, elles partent au Togo, elles partent...
Quand vous dites les sœurs, parce que quelqu'un qui nous écouterait, qui ne connaît pas peltre, qui sont ces sœurs ?
Alors c'est la congrégation donc, des sœurs de la Providence, rue Saint-André, où il y a le couvent à peltre. Elles sont encore une bonne cinquantaine. De tous les âges. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de jeunes sœurs qui viennent maintenant d'Afrique, du Togo, où la communauté, où les sœurs de la Providence ont beaucoup de communautés. Puis on a des sœurs plus âgées. On a des sœurs asiatiques aussi, d'origine vietnamienne essentiellement. Et donc, elles sont à Peltre depuis, alors j'ai un trou de mémoire, je crois, 1800, enfin avant la révolution, avant l'annexion de 1870.
Dans des bâtiments très beaux, très imposants.
Ah oui, tout à fait.
Une belle architecture du passé. Est-ce que vous avez une idée, je pense que oui, du nombre de commerces dans votre commune ? Parce que pour habiter une commune voisine, je me dis, à Peltre, quand même, ils font fort, quoi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? La réponse serait peut-être plus...
Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Si vous interrogez les gens à Peltre, ils vont vous dire une pharmacie.
Ah oui, c'est compliqué d'avoir une pharmacie dans sa commune.
Ouais. On aimerait bien avoir un commerce alimentaire. Il y a à deux reprises des gens qui sont lancés, des commerçants qui sont lancés. Manque de chance, ça n'a pas fonctionné. Mm-hmm. Parce qu'on a... Avoir un petit commerce alimentaire, c'est difficile.
C'est compliqué,
oui. Il faut avoir quand même... une clientèle certaine et il faut avoir des prix qui soient pas très élevés quand on est petit c'est dur d'avoir
des prix
pas très
élevés à moins d'être avoir un produit très spécifique et autre. Puis il y a des grands enfin des moyennes surfaces à 3-4 km donc ça encourage
c'est exactement ça.
Ouais.
Et par contre on a
j'allais dire et un marché comme il y a dans certains villages. Après, les marchés, c'est vrai que c'est tous les dimanches.
Oui, oui.
Alors, un marché, ça fait partie des choses qu'on avait essayé de mettre en place avec un boucher qui était venu pendant pas mal de temps. On veut relancer cette histoire-là. Parce que on a des personnes âgées qui n'arrivent pas à se déplacer, puis on voit quand même que les marchés avec des producteurs locaux, ça intéresse les gens. Et donc, c'est partie des choses qu'il faut qu'on mette sur la table.
On peut en profiter pour faire un clin d'œil. Il n'y a aucune pub, mais c'est la vérité, c'est comme ça. On a un marché en permanence avec la cueillette de Peltre.
Absolument.
Alors, eux, ils ont, la famille Tillemans, ils ont réussi quelque chose d'assez fantastique.
Monsieur Jean Tillemans, alors que personne n'y croyait, lancé, et puis ça a pris l'essor que ça a pris avec son fils Vincent, donc qui est conseiller municipal aussi, son épouse Estelle, que je salue amicalement. Ils ont vraiment bien développé l'activité avec la marque Chapeau de Paille et toutes les cueillettes Chapeau de Paille qu'il y a en France. Ils font un travail incroyable.
Si vous ne connaissez pas la cueillette de Peltre, allez-y, c'est au bord de la route, c'est facile d'accès et c'est un endroit même assez ludique avec les enfants. Ils font beaucoup d'activités. Enfin, c'est un endroit que nous aimons bien. On parlait des commerces dans votre commune. Il y a un bureau de tabac, il y a un boulanger, il y a...
Caviste.
Il y a des garages.
Oui.
Il y a une casse auto.
Oui.
C'est quand même pas courant tout ça.
Il y a, j'en suis assez fier, une clinique vétérinaire.
Oui.
Je trouve que ça, c'est le boulot du maire au quotidien. Il ne faut pas être dans l'incantation, il faut être dans l'action. Je dis toujours, on n'est pas là pour faire la figuration. Et quelquefois, le hasard fait bien les choses, mais il faut provoquer le hasard. Je vais vous expliquer. Il y a 5 ans, je reçois un mail de deux jeunes femmes qui m'expliquent qu'elles sont connues en faisant leurs études de vétérinaire, qu'elles exercent tous les deux comme salariées dans deux cabinets différents, une sur Boulay, l'autre sur le plateau au-dessus de Saint-Privat-la-Montagne, et qu'elles voudraient bien s'associer entre elles et qui me demandent est-ce qu'il y aura un local disponible à Peltre ? Je leur réponds, malheureusement, je n'ai pas de local à vous proposer, mais venez en mairie, on se rencontre pour que vous puissiez m'exposer votre projet. Elles viennent. Elles m'expliquent leur projet. Il y en a une qui m'explique aussi qu'elle est spécialiste dans les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, les serpents, les furets, etc., etc. Et une autre qui m'explique qu'elle est spécialiste, les colombophiles. Je fais un petit clin d'œil à notre ami Gaston Arter, qu'elle adore ça et qu'elle est connue dans le monde colombophile et que donc elle voudrait bien s'installer. Bon. OK. Donc je leur explique, je leur dis j'ai pas grand-chose, mais j'ai rien à vous proposer, mais OK, je prends
note.
Des surfaces, etc., etc. 6 mois après, M. Peter, le patron de Multitoit, qui me contacte, qui me dit « Monsieur le maire, je voudrais vous voir concernant mon entreprise. » OK. Il s'agit de quoi ? Je voudrais vous voir parce que je vais céder l'activité, donc j'aimerais vous voir. OK, d'accord. Donc, à nouveau, je la reçois en mairie. Il me présente son repreneur, M. Maxime Barilaro, et il me dit, on a un problème, c'est que M. Barilaro, il habite à Nilvange, il a une maison, il n'a pas l'intention de quitter là où il habite, et moi, j'habitais sur place, je ne sais pas quoi faire de ma maison. Je leur dis, j'ai une idée.
Tilt. Ouais.
Est-ce que vous serez d'accord pour louer la maison pour une clinique vétérinaire ? Pourquoi pas. Je les ai mis en contact, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ouais, voilà.
Et depuis 4 ans, la clinique s'est bien développée, tellement bien développée qu'il y a une vétérinaire salariée maintenant, et qu'elles ont même, je trahis un petit secret là, mais tant pis, elles ont même l'intention de se développer encore en poussant un peu les murs. Mm-hmm. C'est pour vous
D'accord,
dire.
Donc ça marche bien.
Oui, donc c'est ça le boulot un peu du maire, c'est d'être à l'écoute de tout ça pour favoriser les opportunités et pour ne pas... passer à côté d'un commerce qui voudrait s'installer, d'un artisan qui voudrait s'installer.
C'est une question de réseau. N'aviez-vous pas, à l'époque vous me l'aviez raconté, fait venir une caserne de sapeurs-pompiers
enfin, ah, oui, oui.
C'était aussi... Il y avait un entrepôt. Tout le monde se demandait ce que ça pouvait devenir. Hein. Moi, j'aurais bien fait une discothèque tous les samedis soirs avec, avec des rêves
parties. Ça aurait été pas mal aussi.
Avec des rêves parties, mais c'est les riverains n'auraient peut-être pas été d'accord. Et vous, par presque un hasard, encore les hasards, on les provoque des fois.
C'est
belle histoire, ça.
Absolument. J'aurais pu, avec mes études, faire avoir la fonction d'officier de sapeur-pompier. Et dans mes études, J'avais un copain d'études qui s'appelle Alain Diry, qui a été le directeur départemental adjoint du SDIS 57. Quand il est revenu, il a été très longtemps là, en Saône-et-Loire, là où il est né, et là où il a été jeune sapeur-pompier, etc. etc. Et puis, une fois qu'il est monté en grade, il a eu diverses mutations et il a terminé sa carrière à Metz. Et donc, j'ai eu plaisir à le retrouver à Metz. Et on déjeune un jour ensemble et il m'explique, il me dit « on est embêté, pour ne pas dire autre chose ». Au SDIS, là, on a dans la cour de l'état-major plein de véhicules qui arrivent. Ça commence à être vraiment problématique. Je dois gérer ça et je cherche des locaux autour de Metz pour accueillir les véhicules neufs, les véhicules réformés, pour accueillir l'habillement. Donc là où on reçoit les uniformes et on les distribue les uniformes, ouais. Le petit matériel. Et j'ai du mal à trouver. Est-ce que tu n'aurais pas une idée ? Je lui dis, ah bah si, j'ai une idée. Depuis un an et demi, il y a un entrepôt qui est vide à Peltre. Si tu veux, après manger, je t'emmène, on va voir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je l'ai pris dans ma voiture. Je l'ai emmené, on a fait le tour. L'entrepôt était fermé. C'était Pierre Lécor à l'époque.
Oui, oui.
Mais j'avais l'adresse encore du propriétaire, les coordonnées téléphoniques. Il m'a dit, bah écoute, ça peut m'intéresser. Est-ce que tu sais me mettre en relation avec le propriétaire ? Oui. Je les ai mis en relation. Et c'est comme ça que le SDIS est venu. Et donc d'abord pour la compagnie de soutien technique et logistique. Mmh. Et puis après, il y avait un terrain dispo à côté qui appartenait à la famille Crière, chauffagiste, historique de Peltre. Mais je savais qu'ils avaient l'intention de vendre. Et pareil, Alain Diry me dit « Et le terrain à côté, tu connais ?» Je dis « Bah oui, oui, c'est le chauffagiste. Mais est-ce qu'il serait vendeur ?» Je dis « Oui, pourquoi ?»« Bah parce que, voilà, tu sais qu'on veut couper la caserne de Metz en deux, voire en trois, et on cherche un terrain. On avait si bien un terrain à l'Actipole, à côté de Davigel, mais ça va pas se faire. Et Peltre, ça pourrait être pas mal. » Ben pareil, je les ai mis en contact et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'ambulances partir de Peltre pour des interventions. Il faut dire qu'avec la 4 voies, c'est assez pratique. Hein.
Alors, c'est sûr que les pompiers, l'unité opérationnelle de Peltre, pour aller à la Grange-aux-Bois, pour aller au Sablon, pour aller à Metz-Manny,
ouais.
C'est quand même plus facile que depuis Metz-Centre.
Oui, parce qu'avec les embouteillages,
exactement.
Aux heures de pointe, c'était...
Ça peut être compliqué. Et puis, dessert tout le sud de Metz, jusque Pontoise, voire plus Seulnes, quand la caserne de Verny n'est pas active, puisque la caserne de Verny, c'est essentiellement des bénévoles.
Bénévoles, oui.
Et donc, tout le sud de Metz est mieux desservi.
On parle des infrastructures dans votre commune. Je ne voudrais pas passer à côté de la communauté d'Emmaüs présidée par Maddy Tuillier, qui est, l'autre fois, je voulais y aller, il y avait un embouteillage jusqu'au bord de la route. C'était impressionnant. Donc ça fonctionne bien. Elle a redynamisé, elle est présente aussi. Et puis il y a tous les compagnons. Hein, la communauté d'Emmaüs, vous les soutenez également.
Absolument, oui. Ils font partie de l'histoire de Peltre.
Oui.
Moi, souvent, quand on demande où j'habite, je dis bah, j'habite à Peltre. Ah, à Peltre, le couvent ou les Emmaüs. Le couvent parce qu'on a une tante, on a quelquefois même des gens qui sont maintenant un peu âgés qui me disent « Ah bah j'étais à l'école à Peltre ». Et puis les Emmaüs, bah, parce qu'il y a le bric-à-brac des Emmaüs. Et donc les gens ils connaissent Peltre à travers, le couvent et les Emmaüs très souvent.
Et par les temps qui courent, là-haut, chez Emmaüs, on trouve des choses assez incroyables.
Hein, absolument.
Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je voudrais qu'on parle un petit peu de quelque chose de particulier dans votre commune, parce que vous avez des écoles du plus petit au plus grand. Alors, des écoles scolaires au niveau des enfants,
public.
Mais vous avez aussi la chance d'avoir un lycée et un collège.
Alors, on a dans le public de la maternelle jusqu'au primaire, donc la classe de CM2. Et on a aussi, donc, dans le privé, à l'ensemble scolaire Notre-Dame, lycée, collège et primaire. Ils commencent à partir du CP. Donc avec une direction qui est celle de Mme Géraldine Krebs. Et ensuite, on a le collège et ça s'enchaîne effectivement avec le lycée, avec un taux de réussite aux examens qui est tout le temps proche des 100%. Et puis, on poursuit même maintenant jusqu'au bac plus 3.
Bac plus 3,
dans des diplômes comme le tourisme, comme le commerce. Effectivement, on va jusqu'à ce niveau-là.
Au niveau Des écoles, j'en ai parlé, au niveau d'Emmaüs, on en a parlé aussi. Et vous avez même ici, à Peltre, même si, je vais en profiter pour le dire, elle n'est pas assez utilisée par les associations, et c'est parfois dommage, vous avez la chance d'avoir une radio. Et ce n'est pas toutes les communes qui ont une radio, quand même, qui a aussi autant d'années d'expérience, etc. Donc on peut encourager les associations du village. N'hésitez pas, venez voir Géraldine en journée. Faites la promotion de vos activités chez nous.
Faites un petit mail à M. Perquin, à Géraldine. Faites-lui un petit message en privé sur Facebook, via Messenger. Elle vous répondra, vous serez bien accueillis. Elle fera la promotion de vos activités, voilà, de tout ce que vous faites. Et vous verrez, ça booste, ouais, ça booste la fréquentation.
C'est le rôle d'une radio locale comme la nôtre, hein. Je dis la nôtre avec ce léger sentiment d'appartenance aussi, puisque j'y suis toujours et j'y suis bien. On en profite pour saluer d'ailleurs les auditeurs qui ont dit « je serai à l'écoute, Walter », parce que vous avez des supporters et supportrices. Il n'y a pas que ça, vous avez aussi quelques détracteurs, on en parlera juste après. Je voudrais qu'on parle, on va encore parler de l'existant, puis après nous attaquerons vos projets. Vous avez aussi pas mal de sports que vous soutenez. Il y a le football, bien sûr, présidé par Thierry Grandjean, mais il y a aussi le tennis et d'autres activités.
Ah oui, la vie associative à Peltre est riche, hein. Ça va du théâtre en passant effectivement par les activités sportives. On a l'AEA, vraiment Association Historique de Peltre, qui organise des manifestations à essentiellement loto, mais aussi une manifestation sportive au mois de septembre pour collecter des fonds qui vont être redistribués à tout un tas d'associations caritatives. Ces associations caritatives, ça va d'un orphelinat ou d'une association qui aide les gens à Madagascar, un orphelinat aux Philippines, mais aussi les Restos du Cœur, etc., etc. Oui, on a les parents d'élèves très actifs qui viennent de nous faire un magnifique carnaval. Pour nous, la municipalité, c'est vraiment la vie associative, c'est vraiment très important.
C'est important pour vous.
Ça soutient le cœur du village.
Il y a également, là où je vais quelquefois présenter des écrivains qui sont invités par le club de lecture, c'est aussi, je vois bien les gens qui y sont, c'est aussi de belles réunions. On sent bien qu'il y a une belle ambiance.
Oui, et puis une belle transmission qui s'est faite entre... la famille Guillonnet et puis Madame Touvenin, Catherine Touvenin, qui dynamise vraiment l'association avec les rencontres d'échecs, avec les activités pour les gamins, les activités pour les seniors, une petite nouveauté, le club d'anglais là, qui vient de s'ouvrir aussi les lundis après-midi. Vous avez raison de souligner le dynamisme du club de lecture qui est animé par Monique Leder, que je salue,
ouais, on l'embrasse
et que j'embrasse très fort.
On pense très fort à elle. Ouais. Dites-moi, monsieur le maire, on attaque maintenant les projets de demain, on attaque votre programme. Quand je dis on attaque, c'est pas une attaque, on va parler d'eux, mais on va faire une petite pause musicale et vous avez choisi un chanteur que vous aimez bien.
Ouais, Jean-Jacques Goldman, c'est pas très original, mais c'est un homme qui a tellement apporté à la chanson française et qui a tellement de sens qui donne tellement de sens à ses paroles, c'est formidable.
Et à une époque où il faut faire le buzz et il faut vomir des insanités tous les soirs à la télé pour être numéro un dans les likes, dans les sondages, faire avec des fakes sans arrêt et tout, lui, retiré. Et il est toujours, depuis des années, et il est toujours le personnage numéro un préféré des Français.
Absolument.
C'est quand même un sacré contre-pied.
Totalement.
Tout de suite, c'est Jean-Jacques Goldman. On revient avec Walter Kurtzmann, maire de Peltre, juste après.
De Metz, Thionville, Thionville avec RPL, 89.2. 89.2.
Joli si léger, que nos vies semblaient un peu mal. C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Il changeait la vie. Malhabile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit en temps de larmes et de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris.
Enfin sa radio. RPL, la radio du pays lorrain.
Nous sommes de retour dans notre studio en compagnie de Jean-Marie et de monsieur Walter Kurtzmann.
Walter Kurtzmann, maire de Peltre, il changeait la vie sur la Goldman. Je ne sais pas si vous allez changer.
C'était bien choisi, merci Géraldine.
Alors, une petite remarque de ma part. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y ait qu'une seule liste? Est-ce que ce n'est pas un peu dommageable pour, on va dire, la démocratie, parce qu'une liste d'opposition, elle peut permettre aussi, des fois, que l'on porte une réflexion un petit peu plus élargie sur un sujet, pas prendre une décision à l'unanimité, parce qu'on a eu qu'une seule liste, donc voilà. Et puis, une seconde liste, mais je suis quelqu'un de rêveur, probablement, et de quelque peu utopiste, peut apporter des points positifs dans une réflexion. Quel est votre sentiment sur le fait que vous soyez seul en liste?
Mais la démocratie, elle se nourrit aussi de l'opposition. C'est-à-dire que quand on a une opposition intelligente, bah, c'est stimulant. Ça empêche de s'endormir sur ses lauriers. Ça empêche la pensée unique. C'est pas qu'il y a une pensée unique dans le conseil municipal. On a quelquefois des débats un petit peu houleux entre nous et on prend les décisions à la majorité, pas à l'unanimité. Mais l'opposition, elle peut être aussi attentive au fait qu'il peut y avoir dans un conseil municipal un peu une uniformité de pensée.
Oui, c'est ça.
Un peu...
On dit amen à tout ce que le maire dit.
Oui, et puis on peut s'endormir un peu. C'est-à-dire que... Bon,
peut-être.
On peut ne plus aller voir ce qui se passe ailleurs. On peut ne plus avoir un regard critique sur la durée du mandat. C'est long, 6 ans. Et là, ça ne va pas être 6 ans, ça va être 7 ans.
C'est 7 ans, et puis ce n'est pas votre premier mandat. Et puis, je ne pense pas que vous... Est-ce que vous seriez un jour... est-ce que vous pourriez en arriver un jour... je pense que l'époque est révolue, mais je pose la question quand même. C'est moi le maire, c'est moi qui décide.
Ah bah ça c'est le risque, c'est toujours le risque. Hein. C'est je déroule tout seul, j'ai besoin de personne.
Oui, c'est ça.
Moi je connais, les autres c'est des cons, excusez-moi l'expression. Mais ça c'est un vrai risque. Hein. C'est pour ça que notamment moi je prends toujours le soin d'avoir tous les jeudis soirs une réunion avec mes adjoints et sur vraiment des décisions qui sont pas des décisions de gestion courante. De les écouter, de dire voilà, on a telle problématique qui se pose, mon avis c'est celui-là, le vôtre c'est lequel. Et puis souvent ils m'amènent à changer d'avis, ou quelquefois ils me disent.
Ça arrive.
Oui, ça arrive. Ouais. Et quelquefois, par exemple à tempérer, à me dire non,
oui, voilà,
ne réponds pas sous coup de l'émotion, ou écoute, non, cette décision-là. Est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait plutôt faire comme ça? Voir, c'est arrivé, je vous assure, à plusieurs reprises. Écoute, ça, c'est quand même. Il ne faut pas qu'on prenne, nous, le maire et les adjoints, le bureau municipal, il faut qu'on en parle aux collègues. Si ça peut attendre, on attend le prochain conseil. Fais un mail à tout le monde pour dire qu'il va y avoir ce sujet-là. Fais un mail à la personne concernée ou à l'association ou à l'entreprise concernée pour dire qu'on va attendre le prochain conseil. Et oui, c'est important d'être vigilant à ne pas décider tout seul. Il n'y a rien de pire.
Merci pour votre réponse. Vous n'avez pas de liste en face. Pour autant, les détracteurs, ça existe. Aujourd'hui, en se cachant derrière un pseudo sur des réseaux, etc., on peut flinguer qui on veut, d'une façon plus ou moins honnête. Ça vous est arrivé? Moi, j'ai vu des choses à votre égard qui n'étaient pas forcément positives. Donc, comment vous réagissez? Est-ce que vous dites, bah tiens, il a peut-être pas tort dans sa remarque, ou bah c'est agressif et puis on fera pas grand-chose avec ça, ce qui est dommage, peut-être.
Il y a deux solutions, hein, que la personne soit anonyme ou qu'elle s'identifie vraiment sous son nom. Soit c'est constructif et on se dit on a raté un truc, finalement il a pas tort, soit on peut se dire bon bah encore faut-il qu'il soit identifié, mais quand il est identifié, moi ça m'arrive, je viens de le faire hier, c'est complètement le hasard, quelqu'un qui se promène beaucoup pour des problèmes de santé, il se reconnaîtra peut-être s'il nous écoute, il a eu un problème cardiaque, il fait la rééducation cardiaque actuellement en marchant tous les jours. Il n'intervient pas sur les réseaux sociaux, mais sur le site de signalement des anomalies de la commune. Et donc, pratiquement tous les jours, il m'envoie des anomalies.
Ah, j'ai vu avec une pente qui glissait, oui, etc.
Voilà. Je l'ai contacté en lui disant venez me rencontrer, ou ce que vous mettez en avant, là, je suis complètement d'accord avec vous.
C'est positif, oui, il dit attention, il y a un danger là.
Mais pour tel et tel sujet, je suis un peu démuni, pour telle et telle raison. Mais pour autant, j'ai pris en considération vos demandes, et voilà ce qu'on va faire. Il m'a dit, bah écoutez, moi aussi, je suis content que vous m'appeliez, parce que je veux que vous soyez sûr que c'est pas contre vous que je fais ça.
Bien sûr.
Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut prendre en compte les réseaux sociaux. On n'a pas le choix.
On n'a pas le choix.
Mais
Sauf que
vous pouvez avoir des gens qui, effectivement, se cachent derrière un pseudo. Voilà. Excusez-moi, ça va peut-être pas plaire aux auditeurs, mais quand on fait rien, qu'on est dans son coin, qu'on n'a jamais rien fait pour la collectivité, quand on n'a jamais rien fait pour les autres, les yaka faucons, c'est facile. Quoi.
Voilà. Hein,
j'ai lu ce matin un commentaire de quelqu'un, alors c'est dommage, il se cache derrière un pseudo, mais quelqu'un a un commentaire qui a répondu à quelqu'un qui m'a interpellé sur les réseaux sociaux, qui a dit, comment il a dit ça, comme disait un de mes anciens chefs, ça paraît toujours facile quand on ne l'a jamais fait soi-même.
Ah oui.
Ben c'est vrai, quoi. C'est les yaka faucons, ouais. Il faudrait que, ce serait bien que...
On vient de dire qu'il n'y avait pas de liste, et ben il fallait faire une liste.
Voilà.
Voilà. C'était aussi simple que ça.
Et puis, faire une liste aussi, ça permet dire, il y a des gens qui ont le même avis que moi, il y a des gens qui vont me soutenir, et qui ne sont pas d'accord avec... qui sont pas d'accord avec l'équipe en place, et donc on va proposer une alternative. Donc on veut proposer une alternative. Il y a combien de personnes qui nous suivent?
Rappelons.
Alors
que c'est
on
pas...
y va, on s'y colle,
ouais.
Et puis on se soumettra aux... On se soumettra
à la vindicte populiste.
Voilà, ouais, aux électeurs.
Et puis on verra
bien. C'est le verdict des urnes.
Absolument.
Qui dira si oui ou non, on a raison de s'opposer au maire ou à l'équipe en place.
Oui, oui. Rappelons qu'il y a la parité. Hein. La difficulté aussi d'avoir des listes aujourd'hui, c'est qu'il y a cette parité qui a été imposée. Bon, Ah bon, on
je vais vous étonner, Jean-Marie.
Ce que l'on en veut.
Je vais vous étonner.
Dites-moi.
Nous étions donc 9 à partir. Il fallait trouver 10 candidats et on avait décidé d'en trouver 12 pour avoir 2 suppléants. Vous avez pu le voir sur le tract qu'on a diffusé. Je n'ai eu aucune difficulté à trouver des femmes. On a essuyé 13 refus quand on a contacté des hommes qu'on avait ciblés, y compris 2 messieurs, désolé messieurs, qui nous avaient dit oui. Et je dis nous parce que je les ai reçus avec des adjointes ou des adjoints qui nous avaient dit oui et qui, 2 ou 3 jours après, m'ont rappelé en disant
« Ah non !»«
Bah non, ouais. Parce que voilà, après discussion avec mon épouse, finalement…
»« Je préfère pas venir. »«
Voilà, voilà je, ouais. je me retire. »
Alors, saluons le fait que la parité ait dû être imposée un jour pour qu'aujourd'hui les choses soient…
Puis les femmes, elles ont toujours un autre éclairage, une autre lecture des choses, ouais. des événements. Dans un conseil municipal, elles apportent toujours d'autres idées.
On a parlé de beaucoup de choses. On va aborder maintenant vos projets. Je présume déjà que dans les projets, il y a ceux qui étaient dans les tuyaux, comme on va dire.
Les coups partis.
Voilà. Et, c'est bien vu. Et ceux-là, quels sont-ils? Et puis après, vous nous direz, monsieur le maire, quels sont vos projets? Comment vous comptez continuer à dynamiser votre commune? Il ne faudra pas qu'on oublie non plus de faire une petite aparté sur l'hôpital, puisqu'il y a une particularité au niveau des naissances chez vous.
Alors,
projets.
Les projets qui sont en cours ou qui vont démarrer, parce que je vais donner un scoop à vos auditeurs. Les projets donc, qui sont courts, le 6 rue de Chény, transformation de cette grosse maison bourgeoise de la famille Young en 5 logements de type T2. La livraison devrait intervenir au tout début du deuxième semestre 2026. Donc là, le chantier y déroule, le gros œuvre est quasiment terminé. La couverture sera terminée à la fin du mois de mars et les corps d'état secondaire vont intervenir rapidement. Donc électricité, cloison, chauffage sanitaire, chauffage. Etc.
Vous allez en faire des logements locatifs aidés
Non, ce ne sera pas du locatif aidé, ce sera du locatif. Géré par la commune ou par un bailleur social au nom et pour le compte de la commune. Par une agence immobilière, voilà. Pourquoi pas?
Parce que c'est, on peut le dire, hein, c'est extrêmement compliqué de gérer du patrimoine. C'est un vrai métier et souvent les communes, il faut être équipé déjà en termes de connaissances. Et puis, c'est comme vous dites, c'est un vrai métier. Revenons sur ce projet-là, monsieur le maire. Il vous a valu quand même quelques critiques et quelques banderoles accrochées aux fenêtres, non à ci, non à ça.
Ça continue. C'est un projet qui n'a pas été compris par une petite dizaine de personnes ou vingtaine de personnes. Mais je suis désolé, les statistiques sont là, elles ont la vie dure. J'étais encore en réunion la semaine dernière à la Métropole où il y a un nouveau règlement d'attribution des logements sociaux. Et on a pris à la Métropole un bureau d'études extérieures qui a fait le tour de l'ensemble de la métropole, mais aussi commune par commune, les communes qui ont des logements sociaux, et qui nous disent « Vous n'avez pas, dans la métropole, et en particulier dans les petites communes, la capacité d'accueillir les jeunes. Il vous manque des studios, des T1 et des T2. » Et donc nous, le projet du 6 rue de Chény, il vient de là, accueillir des jeunes. Sinon, on laisse les jeunes actifs, les jeunes qui viennent s'installer, qui viennent de se marier, qui viennent de se mettre ensemble sur le bord du chemin et ils vont habiter loin dans le Saulnois, voilà. etc.
Et des jeunes aussi, j'argumente un peu, ma profession passée me permet d'argumenter en votre sens, c'est que des logements locatifs avec des jeunes, ça permet d'entretenir les infrastructures sportives, voire culturelles, et puis les enfants, le périscolaire, et un sujet ô combien périlleux et délicat, le maintien des écoles quand à 1 ou 2 élèves près, vous devez fermer.
Absolument. Absolument, c'est totalement l'objectif. Voilà. C'est totalement l'objectif. Moi, je vous assure, je peux, en toute ouverture et en toute transparence, vous montrer ma messagerie, la messagerie de la commune. Il n'y a pas un mois qui s'écoule sans qu'on reçoive 1, 2 ou 3 mails Monsieur le maire, je suis jeune diplômé, infirmière, je suis jeune diplômé médecin. Je vais commencer mon activité à l'hôpital. Je voudrais m'installer dans votre commune. Est-ce que vous avez des logements disponibles ? Mais pas que là. Des enseignants sur Metz, enfin voilà.
On est tout proche de la grande ville qu'est Metz, donc effectivement, les logements. Alors, c'est là, on parle de votre commune de Peltre, mais c'est un problème qui dépasse Metz, la Moselle. C'est un problème national. Le logement en France est un sujet délicat. Alors, une fois passé ce projet-là...
Deuxième projet, le presbytère. Donc, je rappelle rapidement l'historique. En 2021, Pierre Levendon, qui était le prêtre en place... quitte le presbytère parce qu'il est muté à maître service et donc on lui donne un coup de main à déménager. Enfin, je lui donne avec quelques bénévoles un coup de main et notre collègue Stan Smarowski, on lui donne un coup de main à déménager. Et à cette occasion-là, je découvre qu'il y a des fissures sur le pignon du côté du cimetière du presbytère. Et des fissures dont...
Des lézards, pratiquement
dont, ouais. Des fissures dont une où je mettais la main dedans.
Ah ouh,
donc là, lézard, je me dis, ouais. Oula. Péril. On fait intervenir un bureau d'études qui nous fait un bilan structure qui nous dit « Votre bâtiment, il a été victime des retraits gonflements d'argile avec sécheresse. Donc les sécheresses, les argiles se rétractent fortement. Humidité en hiver, elle se regonfle. Le bâtiment, il a travaillé. C'est un bâtiment qui est très ancien. Il ne doit pas avoir beaucoup de fondations. Il est en train de s'ouvrir en deux. » Donc là, on dit « Wow, il faut faire quelque chose. »
Reprise en sous-œuvre,
problème, oui. Alors, ouais. Problème, c'est que le prêtre, donc le nouveau prêtre, Michel Bovy, il n'est plus prêtre uniquement pour Peltre, mais il est prêtre pour 8 communes. Donc pour entreprendre des travaux comme ça, il faut l'accord des 7 autres communes.
7 autres communes, voilà. Où il officie.
Donc on a réuni à plusieurs reprises. Les autres communes, quand on a annoncé l'addition, forcément, ils n'étaient pas très d'accord. Donc moi, j'ai repris contact avec l'évêché pour avoir un coup de main. Et puis finalement, on a dit, il faut y aller, parce que le bâtiment, C4, il va s'écrouler, on va nous le reprocher. Donc on a lancé les études, reprise en sous-œuvre obligatoire.
Voilà.
Et on a eu l'accord de l'évêché qui nous a dit, écoutez, nous, on a fait un diagnostic de tous les presbytères de toute la Moselle. On peut vous dire que votre presbytère, c'est un presbytère qui a été conçu à l'époque pour avoir 3 prêtres et une bonne du curé.
Oui.
Il s'est plus du tout adapté, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Vous n'aurez plus qu'un prêtre. Donc si vous voulez faire autre chose du restant des pièces tout en continuant à loger le prêtre, on vous donne un accord. D'où le projet de réhabilitation du presbytère et de création à nouveau de 4 logements. Il y a un logement... T3 pour le prêtre avec le bureau paroissial, un logement T3 au premier étage, plus un T2, dans le grenier et un studio. Pourquoi un T2 et un studio dans le grenier ? Parce qu'on a une hauteur sous plafond à 4,50 m.
Largement acceptable pour les 1,80 m d'hauteur.
Absolument.
La commune, pour autant, est devenue propriétaire du bâtiment ?
Alors, elle a toujours été... elle a toujours été propriétaire.
Ah, elle a toujours été
propriétaire. C'est un bâtiment qui appartient historiquement à la commune. En fait, quand je dis
c'est pas souvent le cas. Les presbytères pouvaient appartenir à l'évêché.
Alors, le presbytère, en l'occurrence, il appartenait à une famille... c'est la famille qui a payé
le bâtiment,
le bâtiment et surtout l'église.
Ouais.
Donc ils avaient
un peu de fortune,
reconstruit l'église,
voilà.
Construit un presbytère et construit aussi le Quaroy qui était à l'époque l'école des filles.
Ah oui,
et ils en ont fait don l'église et le presbytère à la commune. Et le Quaroy a été racheté par la commune dans les années 70. J'ai retrouvé ça dans les
archives. Forme de mécénat, quoi.
Absolument.
Donc, c'est un
forme de mécénat à l'époque.
Ah oui, d'accord. Oui. Bien, merci à cette famille. Hein. Et je pense que vous leur rendrez hommage ou honneur, je ne sais pas.
Ah, ouais. On l'a déjà fait à travers la dénomination des rues, puisqu'on a une rue dans le nouveau lotissement qui est en train de se créer, Chandoré 2, qui s'appelle Pirot de Crépy.
Voilà. Vous avez été... Pardon.
Troisième projet.
Oui.
La construction de l'atelier municipal.
Ça, dans la continuité. Hein.
Si vous êtes passé par là, vous avez vu rue des Fourachaux que les terrassements sont terminés. En une semaine, ils ont fait la plateforme qui va accueillir le bâtiment.
J'ai vu.
De quoi il s'agit ? On a aujourd'hui une équipe technique communale qui est composée de 4 agents, qui n'a pas des locaux dignes de ce nom. En tout cas, ils ont des locaux de stockage éparpillés dans 3 endroits différents.
Oui.
Mais surtout, moi, je n'oublie pas que le maire, c'est aussi l'employeur.
Oui.
Et que aujourd'hui, si on était une boîte privée, on serait épinglé par l'inspection du travail. Pourquoi ? On ne respecte pas la séparation homme-femme au niveau des vestiaires
oui.
et des sanitaires. On ne respecte pas les surfaces pour les sanitaires. Il y a des surfaces et minimum à respecter.
Oui, bien sûr.
Idem pour les vestiaires. Et ils ont un réduit vraiment... Enfin, ils ont une pièce vraiment très minimale pour déjeuner le midi. Alors que tout ça, c'est régi par le code du travail.
À ceux qui diraient, mais pourquoi prendre une douche ? Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, ils prendront une douche en rentrant. Quand il fait 40 degrés ou je ne sais pas combien et qu'ils ont passé la... c'est quand même normal de pouvoir prendre une douche.
Et puis qu'ils montent dans leur voiture en étant un peu douchés, ils ne sont pas obligés de ramener leur crasse qui est liée à leur travail chez eux. Et ils peuvent rentrer chez eux avec des vêtements civils qui sont propres et qui ne sentent pas la transpiration de la journée, voire pire quand ils ont marché dans des éjections canines.
D'autant que je vais en profiter pour, non pas vous faire un compliment, parce qu'on penserait que je fais de la flacornerie depuis le début avec M. Kurtzmann. Je voulais vous parler de la personne que je suis qui traverse votre village plusieurs fois par semaine. Il m'est arrivé de vous le dire, et là je vais en profiter pour le dire à la radio, votre commune est une belle commune. On voit toujours les employés communaux. Actif, on voit des fleurs partout, on voit... Franchement, votre commune est une belle commune, agréable, aussi bien en hiver qu'en été. D'ailleurs, vous avez été, on va en profiter pour faire un petit clin d'œil là-dessus, au niveau des plus beaux villages de France. Enfin,
commune où il fait bon vivre.
Voilà, pardon. Commune où il fait bon vivre, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est quand même... et vos employés, si vous pouvez leur passer le message qu'il y a des gens qui disent « chapeau ».
Un clin d'œil à Julie et à toute l'équipe des 3 garçons, Fred, Olivier et j'ai un trou de mémoire, il m'en voudra pas, Claude, qui donne beaucoup de mal pour effectivement avoir un beau florissement.
Bravo et merci à eux. Monsieur le maire, ça c'était les projets que vous venez de développer.
Alors il en manque un.
Qui était dans les tuyaux, il y en a encore un.
Oui, il en manque un. Qui va démarrer, c'est un vrai scoop, ça va démarrer début avril, c'est l'enfouissement des réseaux entre le lavoir et justement RPL, puisque
ouais.
RPL est à l'angle de la rue des Vignes, en face de l'angle de la rue des Vignes
ouais.
et de la rue de Gargan, et donc l'enfouissement il va concerner tout ce secteur-là.
D'accord.
Enfouissement et rénovation des voiries. Ça va commencer au début avril et ça va s'étendre jusque fin septembre cette année.
Vous aviez fait déjà une partie, me semble-t-il, et puis c'est du phasage, il y a plusieurs tranches, etc.
Ouais. C'est pas les projets qui manquent, c'est les finances. Donc
ouais.
On est obligé de phaser parce que là, l'enfouissement, c'est 236 000 euros de budget. Et la rénovation des voiries pris en charge pour partie par la métropole, c'est aussi 240 000 à 250 000 euros pour cette opération qui est finalement pas très longue. Hein. On va couvrir 250 mètres dans la commune. Quoi.
Je souhaiterais qu'on parle de la métropole juste après. Abordons, si vous le voulez bien, maintenant, vos projets là pour le mandat. À venir. Vous les avez ciblés. On en a encore des projets alors qu'on a, quand même déjà pas mal fait de choses.
On va déjà finir ce qui est en cours.
Ouais.
Ça va nous prendre...
2 ans
À peu près.
Ouais.
Et puis, on a effectivement d'autres projets. On veut créer une maison de santé. Pourquoi une maison de santé ? Parce que aujourd'hui, c'est comme ça. Les médecins, ils ne veulent plus exercer seuls dans leur coin. Ils veulent avoir un endroit où ils se retrouvent. Ils peuvent échanger sur la patientèle, où ils retrouvent les infirmières, les kinés, d'autres spécialistes de santé, où ils peuvent échanger et où ils sont vraiment entre professionnels de santé. Et donc... si on veut pérenniser la présence de nos trois médecins sur la commune, la présence de notre cabinet infirmier, la présence de nos kinés, il faut impérativement qu'on leur offre une structure où ils peuvent se regrouper. Mon modèle, c'est la maison médicale de Courcelles-sur-Nier, qui a été créée il y a pas mal d'années par le docteur Roubinet. Ouais. Je le salue parce que c'est un enfant du village en plus. Ouais. Et c'est vraiment un modèle qui marche bien. Et je pense qu'à Peltre, on mérite ça. Et il faut le faire, sinon les médecins, ils ne resteront pas à Peltre.
Et puis il y a aussi, puisqu'on parle de ça, les problèmes ou les constats d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Quand vous font monter des escaliers ou autres, etc., c'est compliqué. À Verny, il y a un très bel exemple
aussi
d'une maison médicalisée où je suis allé il n'y a pas longtemps.
À Verny, à Ony aussi, il y a une très belle maison. Oui, c'est vraiment des beaux exemples dans la région. Vous avez raison, Jean-Marie, d'insister sur le stationnement, sur l'accessibilité, avoir quelque chose qui est de plein pied.
Bien
parce
sûr.
Que ben, c'est aussi un constat. La population vieillit et donc les personnes âgées, elles peuvent avoir des difficultés à se rendre chez les médecins, des problèmes de motricité, avoir un accident de la vie, faire une chute, faire une entorse, être obligé de se déplacer avec des cannes, avec un fauteuil roulant.
Et on peut accéder, plus monter les escaliers chez le dentiste,
chez
par
le dentiste, chez, voilà, chez les kinés.
Voilà. Ouais. Alors, on continue avec vos projets.
Donc, autre projet, qu'est-ce qu'on fait avec la salle des fêtes? Elle a été créée il y a, dans les années 70 par l'équipe pilotée par, à l'époque, M. Eugène Laurent. Elle a fait son temps. C'est une passoire thermique.
C'était novateur à l'époque d'avoir
très,
une salle comme
très,
ça. Hein.
Très belle salle.
Beaucoup n'avaient pas
et
cette
puis elle
chance-là.
Continue à, elle continue à rendre service,
oui,
vraiment.
Bien sûr.
Quand je vois le taux d'occupation, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Elle a besoin d'une rénovation thermique, elle a besoin d'une rénovation tout court,
cuisine,
au niveau cuisine, au niveau peinture, au niveau électricité,
scène, éclairage,
chauffage, ouais, scène, éclairage et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Combien ça coûte? Est-ce qu'on la maintient là? Parce qu'il y a quand même de la gêne pour les riverains. Hein,
ça,
quand on la loue pour un mariage, un anniversaire, puis qu'à 2h du matin, les convives
tout
partent
klaxonne.
Et ça klaxonne, les riverains ne sont pas très contents, à juste titre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le Quaroy? L'équipe technique va déménager l'année prochaine au mois de février. Le Quaroy, il rend service aux associations. Il commence à avoir de l'âge aussi. Et puis derrière, l'équipe technique va libérer tout un espace.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met tout par terre avec un bâtiment qui est un peu historique de la commune et on construit quelque chose. On rénove, on rehausse, on fait des extensions à l'arrière. C'est quoi le besoin des associations? On n'a pas de petite salle des fêtes pour faire un anniversaire avec 30-40 personnes.
Ouais.
Est-ce qu'on fait ça? Combien ça coûte? Quelles sont les aides qu'on peut attendre? Voilà.
Est-ce qu'on fait du neuf ou est-ce qu'on réhabilite, sachant que la réhabilitation pourrait être aux normes aujourd'hui?
Ça coûte souvent cher.
On en parlait tout à l'heure de PMR. Ça coûte parfois plus cher que du neuf.
Donc, il faut se poser les questions.
Oui, et des bonnes questions.
Et donc, tout ça, c'est des études.
Des réflexions.
On m'a dit récemment... vous mettez le paquet à la fin de votre mandat, là, on voit que vous voulez être élu, vous faites plein de travaux. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est avant de se lancer dans l'aventure, quand on voit ce que ça coûte, d'abord, il faut faire des études sérieuses pour être sûr des coûts, pour être sûr des financements possibles, pour être sûr que le projet qu'on va mener, il tient la route, il répond aux besoins. Et toutes ces études, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. On se casse quelques fois le nez, je vous assure. Hein.
Et ça coûte de l'argent, ces études.
Et ça coûte beaucoup d'argent. Je vais vous donner un exemple sur le presbytère. Presbytère, on rénove le presbytère, on fait le bilan financier de l'opération, on dit « Waouh, ça pique 1 million d'euros ». Et on contacte la région nous dit « Bah écoutez, nous, on peut vous mettre presque 90 000 euros sur la table, mais voilà, il faut que ça réponde à telle et telle exigence. Il faut que votre bâtiment, il consomme pas trop, il faut pas qu'il consomme plus de 104 kW par mètre carré par an. » Voilà, la norme, elle est très précise.
Ouais.
On fait le point avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, le bureau d'études qui a mis au point le chauffage, il dit « Non, on n'y est pas. » Bon, bah, on arrête les études, on reprend les études. Ça coûte combien pour s'y mettre, pour arriver à atteindre cet objectif? Bah, ça va coûter 36 000 euros en plus, mais on a 90 000 euros à aller chercher, 89 000 et des poussières. On n'y va pas. Bon, bah, on a fait l'étude, donc on a posé le crayon pendant 2 mois, remis les études en marche, présenté ça au responsable de la région qui s'occupe de ça, qui nous a dit « Oui, si vous faites ça, c'est acceptable. » On repasse devant le conseil. Les collègues, on y va. Voilà, hein, il faut mettre 36 000 euros en plus sur le coût de l'opération, mais on va chercher 89 000. On y va, on n'y va pas. Oui, bah oui, on y va. Bah, tout ça, pendant ce temps-là, le projet, il a été en pause.
C'est 6 mois. Oui, oui, bien sûr. Oui.
6 mois entre le moment où on rencontre le responsable de la région qui nous explique comment on peut être éligible à la subvention, 2 mois pour refaire les études, 2 mois pour reprendre la décision, réécrire le cahier des charges avant de repartir pour la consultation. Voilà, c'est tout ça. Oui, ça prend du temps.
Les délais de réflexion sont toujours très longs. Et on dit toujours que plus on réfléchit sur un projet... Moi, on aura de surprises et d'embêtements après.
Jean-Marie, vous avez été dans le métier aussi pour la région, je m'en rappelle. Vous savez aussi qu'on a la difficulté, nous, les collectivités, d'être soumis au code de la commande publique. C'est aussi beaucoup de procédures. Ça prend beaucoup de temps pour monter les appels d'offres. Nous, on le fait en interne. C'est moi qui m'y colle parce que c'était mon métier aussi. Et donc, ça permet de minimiser les coûts.
Oui, vous gagnez des coûts d'ingénierie. Hein.
Tout à fait. Mais ça prend du temps aussi.
Vous avez dans votre équipe des maîtres d'œuvre.
Voilà, des maîtres d'œuvre et un acheteur public, Michel Escovron, qui est le voisin de la radio d'ailleurs.
Ça aide aussi. Hein.
Voilà.
Monsieur le maire, je vous laisse poursuivre.
Alors, dans les projets phase 4 de la rue de Garand, puisqu'il restera encore un petit bout entre la rue des Vignes et puis l'Amérique, il n'y aura pas d'enfouissement, donc on va mettre ça aussi sur la table. Ça, c'est les projets directement portés par la commune. Et aussi, il ne faut pas mentir aux auditeurs. Il faut leur dire qu'il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas écrits et qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, un mandat, c'est plein d'opportunités.
Ouais.
Vous avez d'un seul coup un appel à projet qui sort de la région, de la métropole ou du département.
Où on vous encourage financièrement à faire tel ou tel projet. Ouais.
Dans le mandat précédent, ça a été le cas avec l'ombrière photovoltaïque qu'on a fait sur la... sur le parking de la mairie.
Oui.
On avait pour idée de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'école primaire. On a fait une étude de faisabilité qui nous dit non, petit problème avec l'étanchéité Canneuve, petit problème établissement recevant du public, normes de sécurité très hautes, et puis besoin, si vous couvrez, vous allez être bien au-delà du besoin. Votre besoin, il est plus petit que ça. Par contre, la région subventionne à 80% les études, subventionne jusqu'à 25 000 euros le montant du projet, vous avez jusqu'à 15 000 euros, pardon, le montant du projet, vous avez 25 000 euros à aller chercher à la métropole si vous faites un projet photovoltaïque et une ombrière pourrait suffire. Une ombrière, le parking de la mairie, ça rendra service et on peut le faire là. On fait l'étude, ça marche. Coût de l'opération 75 000 euros, mais 40 000 euros, on va chercher des subventions.
Donc,
jamais on l'a écrit dans le programme.
Oui,
dans le programme en 2020, jamais on l'a écrit dans le programme.
Il y a aussi
et pourtant, on l'a
fait. Voilà. Et puis rappelons-le, ça c'est des projets conséquents qui ont un coût. Il y a le fonctionnement au quotidien aussi, qui ne doit pas toujours être très simple. Hein.
1 million d'euros. Grosso modo, c'est 1 million d'euros. Vous avez parlé de l'hôpital tout à l'heure. C'est la particularité de la commune de Pelt. La maternité est sur la commune de Pelt depuis 2013. C'est 3 500 naissances par an, plutôt 3 000 maintenant. C'est 3 agents à temps complet qu'il faut rémunérer pour établir les actes d'état civil, enregistrer les naissances. Et maintenant, c'est pas que l'enregistrement des naissances qui prend du temps, c'est aussi tout ce qu'on appelle le travail de greffe. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des parents qui écrivent « il me faudrait un acte d'état civil parce que on va inscrire le gamin à l'école, parce que on n'était pas marié, on va se marier, donc on a notre livret de famille, on l'a perdu, il nous en faut un nouveau, etc. etc. » Mm-hmm. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail de greffe et ça prend beaucoup de temps.
D'accord, ça prend beaucoup de temps également. Votre rôle est quand même peut-être plus marrant que celui du maire d'Ars-la-Quenexy, puisque lui, il s'occupe des décès. Les naissances, c'est quand même plus...
Dominique Strebly dit « je vais fermer les boîtes ».
Ouais. Et c'est aussi conséquent. Cet hôpital-là, avec le recul, monsieur le maire, c'est bien, ça a été compliqué, maintenant ça roule et on en est content.
Les deux.
Question embarrassante ? Non,
non, c'est pas embarrassant. C'est bien d'avoir... on est content quand même d'avoir aux portes de Peltre un hôpital, une maternité, avec tous les professionnels de santé que ça emmène. C'est quand même pour des petites communes... c'est quand même pour des petites communes beaucoup de contraintes. Des choses simples. Ils font constamment des travaux. Bah, nos concitoyens ne le voient pas parce que, ça concerne que le maire. Pourquoi ça concerne que le maire ? Parce qu'ils envoient les dossiers d'urbanisme à traiter. Tout ce qui est établissement recevant du public, ça relève de règles très strictes pour autoriser les travaux. Donc c'est le maire qui doit gérer ces dossiers-là, transmettre aux pompiers pour vérifier que ça respecte les règles en matière de sécurité d'incendie, en matière d'évacuation, transmettre à la direction départementale de l'équipement, maintenant on dit des territoires, pour tout ce qui est règles d'accessibilité handicapée. Et donc tout ça, c'est des dossiers qu'on doit gérer. On doit gérer les problématiques de stationnement. Si vous allez là-haut, vous verrez qu'il y a beaucoup de stationnements sauvages.
Ah oui, le stationnement, on en profite pour le dire quand même, hein, le stationnement payant est tellement cher que c'est quand même assez incroyable qu'on ait construit un hôpital comme ça sans alors peut-être qu'il faut payer un peu, mais à la journée, pour les pauvres gens qui vont là-haut visiter des pieux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça coûte un peu des fesses, quoi.
Moi, je reste persuadé que la place de l'hôpital était dans le Technopôle 2, à l'endroit où il y a Davigel actuellement.
Probablement.
Oui. Mmh. Alors, le docteur Califé, que je salue aussi, s'il nous écoute, il va dire c'est un débat qu'on a déjà eu, mon cher Walter, depuis des années. Effectivement, à cet endroit-là, il y avait un petit peu de problématique avec de l'eau dans le terrain. Mais bon, techniquement, c'est traité, ça. Et donc, moi, je pense que l'hôpital aurait été mieux à cet endroit-là.
Il y a une piste cyclable toute nouvelle qui a été qui est juste à côté de, pour rejoindre l'hôpital à votre commune. Elle est sympa, cette piste-là.
C'est un vrai succès. Pendant 6 ans, j'ai porté le dossier à la métropole pour dire il faut y aller. Et vraiment, je m'en félicite. Je ne passe jamais là sans voir quelqu'un sur la piste. Des joggeurs, des gens à pied, de tout âge, des cyclistes. Et j'en suis très content parce que je vois de plus en plus de gens qui prennent le métis et qui reviennent dans la commune.
À pied.
À pied. Et vous avez vu dans notre programme le coup suivant, c'est d'avoir dans la commune, à la gare et au centre du village, des stations Graolib, et comptez sur moi, donc des vélos électriques portés par la métropole, comptez sur moi pour défendre le dossier pour qu'on ait rapidement ces stations vélos.
Le temps passe vite, monsieur le maire. J'ai beaucoup de plaisir, nous avons beaucoup de plaisir, j'espère que les auditrices et auditeurs également, à être en votre compagnie. Ça fait plus d'une heure maintenant, je crois. On ne voit pas le temps passer. Vous venez de me tendre la perche parce que je ne vous aurais pas laissé repartir de nos studios sans vous poser la question suivante. Vous venez de le dire à l'instant, à la métropole, j'ai pas cessé de pousser le dossier, Ce que les auditrices et auditeurs ne savent peut-être pas, et vous me contredirez si c'est le cas, si mes propos sont inexacts, aujourd'hui, pour être un maire qui fait avancer ses dossiers, ben, il faut être maire dans sa commune, ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par contre, il faut être presque un militant à la communauté de communes, maintenant à l'Eurométropole, pour pousser les dossiers et puis faire partie de commissions à l'Eurométropole. Aujourd'hui, c'est presque un second emploi, ça.
C'est indispensable. Le mandat du maire, maintenant, et ça a pris un virage en 2014, c'est 50% dans la commune, 50% à la métropole. C'est indispensable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la commission mobilité transport pour avoir l'installation de caméras sur les quais de la gare à Peltre pour la sécurité, si vous ne défendez pas la piste cyclable auprès des services de la métropole, les services de la métropole, ils ne vous voient jamais, vos dossiers n'avancent pas. Parce qu'il y aura toujours un élu qui fait plus de lobbying, cet anglicisme, qui est plus présent, qui va être plus pertinent pour défendre ses dossiers, les services, à un moment donné, ils ont un choix à faire. Ils vont dire,
Walter, on le voit tous les trois jours.
Le maire de telle commune, il a été mieux que le maire de Peltre. Il a mieux vendu son truc, alors on va défendre on va porter ce dossier-là. Et donc, mon boulot de maire aussi, c'est d'être auprès des services pour expliquer la pertinence de nos dossiers, pour être présent, pour écouter ce qui va se faire, pour dire, nous aussi, on voudrait bien en faire partie, etc.
Quelle responsabilité vous aviez à l'Eurométropole ?
Alors, depuis 2 mandats, ça aussi, il faut l'expliquer aux auditeurs, pour les communes, pour les petites communes de moins de 3 500 habitants, c'est la loi qui le fixe. c'est le représentant de la commune, il n'y en a qu'un seul, et c'est forcément le maire, sauf s'il y renonce. Il y a des communes qui l'ont fait, par exemple Saint-Julien, qui l'ont fait par la force des choses aussi, Longeville-les-Metz, mais c'est les seuls à la métropole, et les autres petites communes, c'est le maire
toujours
qui y est.
Toujours le maire.
Et en plus, le maire, il a une délégation. Donc moi, avant Jean-Luc Boll et maintenant François Grandier m'avaient confié la délégation de la construction et de l'entretien des bâtiments métropolitains.
C'est pas rien.
Ce qui fait que aujourd'hui, je suis en charge de la rénovation de l'Opéra Théâtre, la construction...
Le plus vieux théâtre de France. Ouais.
Encore en service.
Encore en service. Hein.
La construction d'une piscine métropolitaine à Voipy, et sans doute une prochaine à Jury. La construction, la rénovation du dépôt des camions poubelles qu'on appelle centre technique métropolitain à Borny. La construction d'un nouveau dépôt de bus sur le plateau de Frescati. La construction des nouveaux bureaux de la police intercommunale aussi sur le plateau de Frescati.
Des gros projets, là.
Des gros projets. La rénovation... du centre du conservatoire régional de musique. Enfin voilà, je ne vais pas être trop long avec les auditeurs, mais plein de projets.
Est-ce que parfois vous ne mélangez pas un peu tout ça? Parce que quand vous nous. Quand
vous des fois,
nous
je dors mal.
Quand vous nous dites.
Des fois, je dors mal.
Et les gens ne savent pas, à mon sens, les gens ne savent pas assez quelle est l'importance d'un mandat à la métropole. À mon avis, parce que ça mériterait d'être plus connu, plus su.
C'est la loi aussi qui a fixé ça, en tout cas depuis 2010, avec plein de compétences qui ont été transférées à la métropole. Si les poubelles sont ramassées deux fois par semaine, le lundi pour les ordures ménagères, le vendredi pour les recyclables, c'est parce qu'il y a une grosse structure à la métropole qui s'occupe de ça. La rénovation, l'entretien des routes, c'est la métropole. Le petit entretien, c'est la commune. Le gros entretien, c'est la métropole. Les transports en commun, c'est la métropole. Il y a tout un tas de sujets, je ne veux pas être trop long.
On a parfois parlé de désengagement de l'État avec pas les finances qui allaient avec. Hein.
Tout à fait.
Ce qui fait qu'il faut faire la même mission avec moins d'argent. Enfin, là, c'est un autre débat. Il y a des présidentielles qui se profilent tout bientôt. Un aspect, monsieur le maire, sur tout ce qui est sécurité, caméra, vous l'avez sommairement abordé tout à l'heure. Est-ce que vous vous raccrochez aux compétences de la métropole pour bénéficier d'un équipement meilleur, à meilleur tarif, etc., etc. Où vous en êtes à ce sujet-là ?
Alors, sur ce qui a été fait dans le mandat qui va se terminer sur la vidéoprotection, on était autonome, on a fait tout seul. En revanche, on était très contents. Ça, c'est un vrai service supplémentaire apporté aux communes. Vous avez parlé du désengagement de l'État. On voit que nos gendarmes, ils sont complètement débordés.
Oui.
Il y a des sujets nouveaux, les violences intrafamiliales, les cambriolages. Et donc, les petites problématiques qui pourrissent la vie de nos concitoyens au quotidien, comme les voitures ventouses, comme les stationnements gênants, etc., c'est plus réglé.
Ouais.
Les conflits de voisinage ou le bruit, c'est plus réglé par la gendarmerie.
Et quelque chose que tout le monde saluerait peut-être, est-ce qu'on est encore contrôlé sur les routes aujourd'hui par les gendarmes? De moins en moins,
de moins en moins.
Je me dis toujours, bah tiens, tu vois, ils ont autre chose à faire, ils sont pris ailleurs. Hein.
Et donc, nous, on a adhéré à la police intercommunale.
D'accord.
Qui est en train de monter en puissance actuellement avec des recrutements. Et on va poursuivre ça dans le prochain mandat. Et on va aussi regarder le raccordement de notre infrastructure de vidéoprotection au centre de supervision métropolitain.
Métropolitain.
Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'avoir une réaction plus rapide en cas d'événement indésirable dans la commune.
Oui. Et puis en cas de recherche, après, on voit. Voilà. Vous n'avez pas fait de la sécurité un sujet numéro un, comme beaucoup ont pu le faire?
C'est une préoccupation de nos concitoyens. On est quand même dans une commune où, globalement, ça se passe bien. On n'a pas trop de cambriolages. On en a, on le regrette. On n'a pas trop d'incivité. On n'en a pas beaucoup, vraiment, c'est ponctuel. On a des petits problèmes de stationnement, on a des petits problèmes devant les écoles, de stationnement sur les trottoirs, de voitures ventouses, mais c'est minime. Et donc, avec la police intercommunale, on va y arriver.
Une de mes dernières questions, monsieur le maire, tous ces projets-là, ces activités, ces sujets en lien avec l'Eurométropole, c'est bien beau parce que autant vous avez une liste à Peltre, le facteur danger, il n'est pas là. Autant du côté de la mairie de Metz, avec ce qui se passe en ce moment, ce qu'on peut appeler une bataille, hein, pas forcément toujours très élégante d'ailleurs, d'où découlera la présidence de la métropole. J'en reviens à la métropole. Une fois qu'on aura un nouveau ou un maire de Metz réélu, peu importe, il y aura un président de la métropole. En principe, c'est le maire de la ville de Metz. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer à ce moment-là, monsieur le maire, sur vos projets pour la commune? J'appelle pas ça des dégâts collatéraux, mais des orientations différentes.
Ah ben
c'est important quand même.
C'est super important parce que c'est sûr que la politique, par exemple, sur les pistes cyclables, moi je vais porter le dossier, je vais continuer à porter le dossier de la liaison entre Peltre et Magny pour une piste cyclable. Si le président de la métropole, qui est le maire de la ville-centre, dit et qu'il ne soit plus François Grosdidier...
On ne fait plus.
On privilégie d'abord Metz pour avoir un réseau cohérent sur Metz, puis après on s'étendra vers l'extérieur, on va passer devant l'affiche, nous.
Oui, voilà.
C'est sûr. Hein. Si sur les transports en commun, comme je le souhaite, on arrive à développer le cadencement du bus sur Metz et une liaison sur Magny pour avoir une continuité vers la maternité et l'hôpital, c'est pareil, on se concentre sur Metz. On va aussi, nous, au niveau de la commune de Peltre, passer devant l'affiche.
Rappelons qu'en matière de transport en commun, vous avez la chance, et c'est encore une fois une opportunité pour votre commune, d'avoir une gare, et on peut, en 7 minutes, rejoindre le centre-ville.
Ah oui, ça c'est un vrai plus, c'est indéniable. C'est pour ça aussi que
il y a eu des travaux de fait aussi.
Voilà, c'est pour ça que je veux aussi avoir une station Graoli, pour que quand les gens y descendent du train, ils puissent avoir le choix de rentrer avec un vélo électrique. Et aussi pour les étudiants et étudiantes de l'IFSI, leur permettre d'avoir ce moyen de transport.
J'ai pris le TER l'autre soir. C'est impressionnant le nombre de jeunes qu'il y a dans les TER.
Tous les gamins tous les jeunes qui vont notamment au lycée-collège. On en a parlé tout à l'heure.
Voilà. Monsieur le maire, y a-t-il un sujet? Parce qu'on va bientôt rendre l'antenne. Hein. Géraldine, elle me regarde avec un petit air comme ça. Elle dirait, Jean-Marie, le timing. Et en fait, le timing, monsieur le maire, on n'a pas vu le temps passer. Y a-t-il un sujet que je n'ai pas abordé, sur lequel vous auriez aimé poser un peu votre réflexion?
Bon, écoutez, vous avez été assez exhaustif. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on va pas faire de promesses qui seront pas tenues, parce que les temps sont difficiles au niveau des finances. Si nos auditeurs, et en particulier les concitoyens de Peltre, ont encore des idées, on les invite à venir participer à la réunion publique de vendredi soir à 20h à la salle des fêtes.
Ce vendredi-là, à 20h, vous avez encore le droit jusqu'à minuit, je crois.
Absolument.
C'est ça.
Absolument. Dans les sujets qu'on n'a pas abordés ensemble, mais qui vont être aussi un fil conducteur du prochain mandat, il y a l'environnement. On a parlé du florissement avec l'équipe technique, mais l'environnement, on ne peut plus passer à travers. Donc on va continuer à la plantation d'arbres, à trouver des endroits où il faudrait replanter des arbres, ou des endroits où on n'en a pas, où on veut en planter. Tout ça, l'environnement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Il y a une association qui va se constituer, là aussi, c'est un scoop que je donne à vos auditeurs.
C'est le troisième aujourd'hui.
Oui, bon, c'est le troisième.
Il faut venir nous voir.
Il y a une antenne de Torcol qui va se créer à Peltre, avec, j'espère qu'il m'écoute, Guillaume Di Vitantonio, qui a réuni... et Franck Vignac qui ont réuni tous les deux un certain nombre de bénévoles, et on va regarder avec eux cette initiative qu'ils prennent pour sensibiliser plus encore nos concitoyens aux problématiques de l'environnement, les plantes envahissantes, les oiseaux, etc., etc. Le frelon asiatique, là aussi, nouveau scoop, on va faire dans le premier semestre, dans le deuxième trimestre 2026, une conférence sur le frelon asiatique, parce que ça préoccupe beaucoup nos concitoyens, le danger du frelon asiatique, les nids qui se constituent, et comment on peut, lutter localement là-dessus.
Voilà. Bien, monsieur le maire, on a fait le tour, on a passé un bon moment en votre compagnie. Je vous dis bonne réussite pour dimanche, je ne me fais pas trop de soucis. D'autres communes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Je crois savoir qu'il n'y a qu'une liste à un village voisin, même deux villages voisins. Ce n'est pas évident aujourd'hui de fédérer, de rassembler pour qu'il y ait la possibilité de choix. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons ici de bonnes élections. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez venir quand vous voulez. Vous êtes ici un peu chez vous.
Bah, je réponds toujours vraiment avec grand plaisir à vos sollicitations. J'en profite pour saluer Christophe Prévost aussi, qui travaille aussi à la radio et qui manque pas de m'envoyer régulièrement des petits SMS pour me dire « Dis donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »
Hein. Est-ce voilà. que tu serais dispo pour faire un peu le point?
Si vous me permettez le mot de la fin,
oui,
quel que soit votre avis, quelle que soit votre opinion, votez dimanche. Allez faire entendre votre voix. Allez déposer un bulletin de vote dans l'urne, qu'il soit un bulletin blanc ou un bulletin pour une équipe, quelle que soit l'équipe. Parce que la démocratie, elle est précieuse et elle ne s'use que si on ne s'en sert pas.
Voilà. Merci Géraldine, je te rends l'antenne, le micro, les boutons,
tout
la
ce que tu veux,
mixage,
d'accord.
La musique et tout. Et
bien,
merci à toi d'avoir assuré la
mais
régie.
De rien, je vous en prie, c'était avec plaisir. Merci à toi, merci monsieur le maire d'avoir été avec nous ce matin pour un échange riche, concret, plein de bonnes nouvelles. Et je vous souhaite donc bonne chance pour le 15 mars. Vous pourrez retrouver cette interview demain en replay sur notre site et sur nos réseaux. Bonne journée à tous et à bientôt.